Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour, bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Après une première émission la semaine dernière, on retrouve Alerte Météo Terre qui s'interroge en deux chapitres sur les oiseaux. Que nous disent-ils? Qu'en comprenons-nous? Des scientifiques, des ornithologues de la LPO et des artistes décryptent leur chant et leur comportement. Chapitre 2, Silentium.
Alerte Terre.
Alerte Météo.
Alerte Terre. Météo
Terre.
Alerte Météo Terre.
Bonjour, bonjour les hirondelles.
Alerte. Alerte Météo.
Alerte.
Alerte Météo Terre. Une émission qui se balade.
Alerte.
En mer et sur terre. Météo Terre.
L'émission pour garder
L'émission pour garder les pieds par terre.
Grande histoire et petite question.
Une émission en mer
et sur terre.
Petite histoire et grande question.
Alerte.
Alerte, météo terre. Alerte, météo terre. Alerte, météo terre.
Les oiseaux, maintenant, en fait, on sait que ce sont des dinosaures. Ils sont directement descendants des dinosaures. Il y a des fossiles incroyables qui ont été découverts. En Chine, en particulier, des fossiles vraiment entre le dinosaure et l'oiseau. Parce qu'avant, on n'avait qu'Archaeopteryx, qui faisait un peu de figure emblématique, mais très solitaire. Hein. C'était un peu le seul fossile. Mais là, en Chine, dans le désert de Gobi, il y a maintenant une pléthore de fossiles. Et d'ailleurs, les plumes, il semblerait, ça n'ont pas été... inventé, on va dire, par les oiseaux, mais déjà les dinosaures avaient des plumes. Donc les plumes, c'est quelque chose de vraiment très ancestral. Et donc à partir de là, il y a eu la grande extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. La grande question, c'est de savoir pourquoi tous les dinosaures ont disparu, mais les oiseaux ont réussi à survivre. Bon, ça c'est encore...
C'est quoi un oiseau à la période des dinosaures?
Oui, en fait, quand on regarde les oiseaux maintenant, ils ont des adaptations qui sont très spécifiques. Par exemple, ils ont des becs sans dents, ils ont une ossature qui est très très légère, allégée, parce qu'il faut voler. Et donc, dans les fossiles de dinosaures, on trouve en fait des phases intermédiaires. On trouve des oiseaux avec des becs et des dents, ou bien des oiseaux qui ne volaient pas encore. Mais en fait, on voit les prémices qui vont se mettre en place, de l'anatomie précurseur, en fait, qui va évoluer par la suite en oiseaux. Et en fait, on trouve déjà des similarités dans les ossements, dans le bassin, dans les détails morphologiques du squelette. Et on peut clairement déterminer que c'est des oiseaux, en fait.
Ah, donc alors, l'ancêtre de l'oiseau, il a quatre pattes.
Bien sûr. Après, mais vous voyez, comme je vous ai dit, je ne connais pas toutes les étapes de cette évolution. Mais à la base, c'est un quadrupède. Et après, vous avez une branche des dinosaures qui a évolué des caractéristiques des oiseaux. Et peu à peu, cette évolution a fait que la sélection a favorisé justement la disparition des caractéristiques, on va dire, de dinosaures terrestres pour favoriser le vol, en fait. Le vol qui a des contraintes très importantes. Et après, il y a des oiseaux qui sont arrivés sur des îles et qui ont perdu la capacité de vol et qui ont évolué des caractéristiques... parallèle, on appelle ça en biologie, convergente à des dinosaures. Vous avez par exemple à Madagascar, il y avait des oiseaux éléphants, il y avait les moas en Nouvelle-Zélande. Donc c'est toutes des espèces qui sont actuellement éteintes, mais c'était des oiseaux énormes qui avaient, comme ils ne volaient plus, ils ont redéveloppé des caractéristiques de, on pourrait dire, de dinosaures. Ouais. Mais en fait, ce qui différencie les oiseaux des dinosaures, c'est vraiment ces adaptations spécifiques pour le vol, donc un allègement du squelette, une perte des dents. En fait, par exemple, la perte de dents, ça implique plein de changements au niveau du régime alimentaire, etc. Donc, on évolue des becs qui sont plutôt pour déchirer les proies, comme les rapaces, etc. Donc, d'ailleurs, chez les oiseaux, la forme, la taille du bec est vraiment un déterminant du régime alimentaire. Un flamant rose, vous voyez, il est quand même coincé. Enfin, on dit coincé, mais il est vraiment très spécifique dans son régime alimentaire. Un flamant rose ne peut pas aller se nourrir d'autre chose que des micro-organismes ou des algues qu'il filtre dans les marais. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'évolution extrême, en fait. En plus, la tête en bas, sous l'eau.
Parce que c'est le type l'exemple d'espèce qui, s'il appuie sa nourriture, il risque de s'éteindre, il ne pourra pas s'adapter.
Bah, les flamants roses, oui, alors il y a les flamants roses, c'est vraiment une espèce qui a un féodé à ces milieux aquatiques. Et il faut qu'ils aient accès à ça, c'est clair.
Ce mois-ci, avec Alerte Météo Terre, on est allé au Jardin des Plantes de Toulouse. On a pris le train, nos vêtements de pluie, nos casques et nos enregistreurs. Nous avons rencontré et écouté Philippe Hebb, directeur de recherche au CNRS, Thomas Fourcault, un observateur des oiseaux, Glenn Dekelen, salarié de la LPO du Tarn. Avec une interrogation en tête, comment vont les oiseaux? Comment ils se débrouillent avec les changements climatiques? Notre premier intervenant, Alexis Chen, est chercheur au CNRS. Il nous parle de la mésange et de ses comportements, depuis une station en Ariège.
Donc, je suis Alexis Chen, je suis chercheur au CNRS. Je suis affecté au laboratoire de Moulis. Une petite station de terrain avec une quinzaine de chercheurs au pied des Pyrénées. Le projet actuel que je mène ici à Moulis, c'est sur des mésanges, des oiseaux très communs, des mésanges charbonnières, des mésanges bleus. Et j'étudie comment est-ce qu'ils s'adaptent ou ils s'acclimatent à des différences d'altitude. Et donc l'intérêt de l'altitude, c'est que ça imite le changement climatique quelque part. On peut imaginer en haute altitude où il fait un peu plus frais. C'est le climat actuel, et en basse altitude où il fait plus chaud, c'est le climat futur. Donc c'est une façon de un peu modéliser, disons, les effets potentiels du changement climatique, sachant que les autres méthodes, c'est attendre 40-50 ans, et ça on n'a pas trop le temps avec le changement climatique. Donc on a mis 700 nichoirs dans les forêts autour de Moulis, qu'on contrôle chaque nichoir une fois par semaine, de, disons, mi-mars jusqu'à fin juin.
Est-ce que tu peux nous parler un peu donc, de ton sujet d'étude? C'est vraiment les changements climatiques ont-ils un impact sur les mésanges? Lesquels et comment? Quels sont les comportements qui changent?
Oui, oui, oui.
Et peut-être quelles sont aussi les solutions qu'elles trouvent ou pas, d'ailleurs, au changement climatique.
Donc on a la mésange charbonnière qui a le ventre jaune avec le trait noir, c'est un peu un des classiques qu'on voit, la mésange bleue qui est bleue, donc ça c'est aussi un classique. Et après on a trois autres espèces qui sont un peu moins communes, la mésange nonnette, la mésange noire et la mésange huppée. Je dirais à la base le projet est aussi intéressé de comment est-ce que les animaux, les oiseaux, les organismes vont changer leur comportement pour faire face à des différences dans l'habitat. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi le gradient d'altitude parce que, bon, à Moulis, c'est ce qu'il y a comme gradient le plus extrême, c'est l'altitude. Mais aussi, je savais que c'était un bon modèle pour regarder les changements climatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, premièrement, il n'y a pas de différence génétique entre nos populations. C'est-à-dire, ils ne sont pas adaptés à haute altitude versus basse altitude. C'est globalement les mêmes individus qu'on trouve en haute altitude et basse altitude, c'est juste qu'ils vont ajuster leur comportement selon là où ils se trouvent. Et ce qu'on voit, c'est qu'en haute altitude, ils vont nicher un peu plus tard par rapport à la basse altitude. Ce qui fait que quand ils vont nicher, il va faire un peu plus chaud, parce que à tout moment, on a environ 7 degrés de différence de température entre basse et haute altitude. Donc le fait de retarder la ponte un peu en haute altitude, ça les permet d'avoir une température un peu plus chaude. Mais malgré ça, donc environ presque 2 semaines de différence de retardement dans la nidification, malgré ça, il fait toujours plus froid en haute altitude que basse altitude, au moment qu'ils vont pondre l'œuf. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des contraintes. Peut-être qu'il ne peut pas nicher plus tard parce qu'il y aura moins de nourriture pour nourrir les jeunes. Enfin, on ne sait pas exactement. Mais il se trouve dans une situation où peut-être la température est moins idéale en haute altitude. Donc, il doit faire face à ça. Ils font 2 choses. Une chose, c'est qu'ils vont pondre un œuf de plus en moyenne en haute altitude par rapport à basse altitude. Mais le fait est que... il y a moins d'œufs qui vont éclore en haute altitude que basse altitude, et il y a plus de mortalité des jeunes dans le nid en haute versus basse altitude. Donc, a priori, ils vont pondre l'œuf de plus pour compenser cette perte qu'ils vont avoir, sans doute en partie liée à la température. La température, peut-être la nourriture, qui est un peu moindre en haute altitude, il semble. Après, une fois que les oisillons se sont envolés, on n'arrive plus vraiment à les suivre. Mais ce qu'on constate, c'est que les parents de haute altitude et basse altitude, en moyenne, ils ont autant de poussins qui s'envolent. Donc, ceux de haute altitude, ils vont pondre un œuf de plus pour revenir au même niveau que ceux de basse altitude, d'avoir le même nombre de progénitures à la fin de saison. Après, il y a d'autres ajustements. Par exemple, en haute altitude, ils vont pondre des œufs légèrement plus gros, un tout petit peu plus lourd, un petit peu plus grand. Mais par contre, les poussins, ils grandissent un peu moins vite que ceux de basse altitude. Et donc, au moment où ils sont prêts à s'envoler, de nouveau, les poussins, ils ont plus ou moins la même taille. Donc, quelque part, ça, c'est un bon signe pour les mésanges, au moins par rapport à cette différence de température. Après, on voit avec des collègues qui travaillent en milieu urbain, c'est pas tout à fait la même chose. Il a tendance à faire plus chaud dans les villes. Donc, ils ont tendance à nicher plus tôt, pondre plus d'œufs. Mais par contre, il y a tellement peu d'insectes en ville, il n'y a pas beaucoup d'arbres, et avec la pollution, il y a moins d'insectes aussi. Et donc, une fois qu'ils ont des poussins, boum, ça chute, et ils ont beaucoup, beaucoup de mortalité. Dans nos forêts, leur comportement d'ajustement semble être plutôt une bonne chose par rapport pour pouvoir faire face à cette différence de température. Mais cette réponse à la température, elle n'est pas forcément idéale dans tout contexte. Dans des contextes vraiment nouveaux, comme la ville, ça semble être pas très bien adapté pour avoir vraiment une bonne survie et une bonne production locale de oiseaux.
Plus globalement, moi je suis naturaliste, les oiseaux font partie de mes domaines de prédilection, mais au même titre que les mammifères, que les insectes, les champignons. Enfin, pour moi c'est compliqué en fait de ne pas toucher un peu à tout en fait, de ne pas appréhender le système un peu global qui nous entoure au niveau de la nature et au niveau de l'environnement plus généralement aussi, quoi. Du coup, pendant toute ma prime jeunesse et mon adolescence, en fait, tout seul, j'avais un bouquin, et je regardais, j'essayais d'identifier les oiseaux. Tout seul, quand je les croisais dans la nature, avec une petite paire de jumelles au début, et puis jusqu'à ma rencontre, en fait, avec une personne qui est devenue un ami très proche, qui est lui un ornithologue confirmé, qui m'a vraiment sensibilisé plus profondément aux oiseaux. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai investi dans une longue vue. Et puis j'ai commencé de faire beaucoup plus de terrains qui étaient directement liés aux oiseaux, que aux oiseaux. J'ai commencé de faire aussi un peu des kilomètres pour aller voir des espèces un petit peu originales que je voyais pas dans le milieu où j'habitais. Et puis cette petite histoire aussi, donc avec ce fameux ami, en fait, qui m'a aussi beaucoup touché. Et en fait, on a fait, pas loin de 200 km pour aller voir un hiver un petit oiseau migrateur qui s'appelle le Pouillot Véloce de Sibérie. Et donc, c'est un tout petit oiseau, ça fait 10 cm peut-être. Et on l'a trouvé, parce que c'est pas facile non plus à trouver. Alors à cette époque, parce que ça a 25-30 ans, il n'y avait pas trop d'internet. Et en fait, il y avait un répondeur téléphonique où les observateurs laissaient des messages pour signaler leurs observations. Et donc on était à l'écoute de ce répondeur. Et donc ce petit pouillot avait été trouvé un jour et nous on y allait le lendemain. Et en fait, on était, je sais plus, on était 3 ou 4 ornithologues et on marchait à 10 mètres l'un de l'autre et puis on avançait en fait tout doucement pour essayer de le voir volter, tac, et on le découvre à un moment, il s'envole, ah tac, il est là, ah, on bouge plus, on attend, puis on le voit s'envoler un petit coup, puis replonger dans les buissons, et puis voilà, et ça dure, je sais pas, ça dure 2 heures peut-être, la recherche, la trouvaille, et puis on a réussi à l'observer comme ça, peut-être 2 minutes et demie sur les 2-3 heures qu'on a passé là-bas, ce petit truc-là. Et il venait de Sibérie, quoi. Il avait fait, ben, je sais pas, 4000 ou 5000 kilomètres pour venir passer l'hiver au chaud, dans le Jura. Et ça m'a bouleversé, en fait, de cette rencontre avec cet oiseau qui avait fait tant de kilomètres, qui avait dû croiser plein de chats, plein de rapaces, qui avait risqué sa vie pour venir passer un petit moment un peu plus au chaud à 200 kilomètres de chez moi. Voilà, c'est un des gros événements de ma vie d'ornithologue qui m'habite beaucoup encore. Et en fait, vu que ça m'a touché moi, mon petit être intérieur, quoi, je me suis dit que les êtres vivants. Alors, on parle des oiseaux, mais finalement, c'est plus général. En fait, c'est l'environnement dans lequel on évolue qui m'a un peu apparu comme ça. Et voilà, j'appartiens au même monde que ce petit oiseau, quoi. Et du coup, ben, je pense que je suis devenu beaucoup plus. Alors, j'étais déjà attentif à mes faits et gestes dans ma vie quotidienne, quoi. Mais je crois que je le suis devenu encore plus. Et donc, dans l'idée de la préservation des espèces et des milieux, et puis de notre planète, quoi, en fait. Ouais, je suis devenu plus attentionné aussi.
Complainte d'un certain dimanche. L'homme n'est pas méchant, ni la femme éphémère. Ah, fou dont au casino battent les talons. Tout homme pleure un jour, et toute femme est mère. Nous sommes tous filiales, allons. Mais quoi ? Les destins ont des partis pris si tristes, qui font que les uns, loin des autres, l'on s'exile, qu'on se traite à tort et à travers d'égoïstes. Et qu'on s'use à trouver quelque unique évangile. Ah, jusqu'à ce que la nature soit bien bonne, moi, je veux vivre monotone. Dans ce village en falaise, loin en verseau les cloches, je redescends dévisagé par les enfants qui s'en vont faire bénir de tièdes brioches. Et rentrer, mon Sacré-Cœur se fend. Les moineaux, des vieux toits pépillent à ma fenêtre. Ils me regardent dîner sans fin à la carte. Des âmes d'amis morts les habitent peut-être. Je leur jette du pain. Comme blessés, ils partent. Ah, jusqu'à ce que la nature soit bien bonne, moi je veux vivre monotone. Elle est partie hier. Suis-je pas triste d'elle ? Mais c'est vrai. Voilà dans le fond de mon chagrin. Oh, ma vie est au pli de ta jupe fidèle. Son mouchoir me flottait sur le rein.
Alors, on se trouve ici au Jardin des Plantes, où on étudie des mésanges en particulier, les mésanges charbonnières et quelques mésanges bleus. Donc moi, je fais ce qu'on appelle l'écologie comportementale, c'est-à-dire on étudie comment l'environnement va façonner le comportement des individus. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie les mésanges ? C'est parce qu'en fait, elles sont présentes dans tous les habitats, et dans les forêts, et dans les villes. Donc ça nous permet de comparer vraiment des oiseaux, des populations différentes, voir comment elles se débrouillent lors de la reproduction et leur survie. Vous voyez, là, il y en a une juste. Elles sont habituées aux gens. Voilà, celle-là, on ne l'a pas baguée. Alors ça, c'est, je pense, c'est une jeune de l'année. Vous voyez, elles sont vraiment habituées aux gens. Donc, parce que les gens leur donnent à manger souvent. Et là, regarde, s'il y a une cacahuète dans la main, elle serait presque prête à venir. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un autre. Et donc, ils sont vraiment habitués au contact aux gens.
Elle s'est posée sur sa main.
Ouais. Ça montre vraiment qu'elles sont habituées aux gens qui viennent les nourrir avec des cacahuètes. En fait, ben, si un moineau trouve des chips ou des frites par terre ou du pain, d'ailleurs, souvent, vous voyez, dans les parcs, on dit « ne donnez pas du pain aux canards » dans les parcs où vous avez des canards, parce que les canards vont se gaver de pain et ce n'est pas bon pour eux. Ils devraient plutôt manger des graines ou des herbes, etc. Donc les animaux, ils n'ont aucune raison de se restreindre. Il n'y a aucune raison, puisque ces mécanismes sont les mêmes. Ils ont, enfin, pas les mêmes, mais je veux dire, les processus qui, s'ils trouvent de la nourriture facile, ils vont se concentrer. Et moi, j'avais des ruches avec mon père en Amérique du Sud et on produisait du miel dans une plantation de café. C'était un super miel avec fleurs de café. Et un jour, on a extrait du miel une année après. Et en fait, c'était de la mélasse. C'était devenu de la mélasse. C'était plus de. On ne comprenait pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un moulin à canne à sucre à distance d'un kilomètre. Et en fait, les abeilles, elles allaient chercher le sucre dans le moulin. Elles ne se prenaient pas la tête. Donc, elles trouvaient le sucre de canne et on faisait de la mélasse. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple. Les animaux vont, s'ils trouvent une solution de facilité économe, ils vont y aller. C'est peut-être pas bon pour leur santé. Après, je ne sais pas, on n'a pas regardé l'effet de la mélasse sur la croissance des abeilles, mais voilà, ça montre qu'ils vont trouver et vont chercher une solution qui leur facilite. Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que l'animal, il essaye de maximiser on est un peu loin, près des cloches. Hein. On va s'éloigner un peu, on peut s'éloigner un peu. On n'a même pas fait le tour, hein, quand même.
Là, on dit que dans le chant des oiseaux, si tu as peur d'eux,
tu sais que dans le chant des oiseaux.
À partir du moment où je suis dehors, en fait, j'observe les mouvements. Par exemple, là, je suis sous mon Velux et je sais que s'il y a un oiseau qui va passer dans mon coin d'œil, en fait, je vais directement lever la tête pour essayer de voir ce que c'est. Je suis attentif. Enfin, j'ai toujours un œil qui est là et en fait qui guette un mouvement. Et... Ouais, bon, bah c'est des pigeons. Bon, bah c'est encore des pigeons, mais c'est pas grave, quoi. Les pigeons ramiers, c'est quand même super joli, quoi. Après, annuellement, je suis les retours des migrateurs au printemps, notamment des hirondelles. Et chaque année, de plus en plus, je suis choqué par le faible nombre d'oiseaux qu'il y a en début de saison. Alors certaines années, les reproductions se passent bien, comme cette année, et il y a bon nombre d'oiseaux qui repartent. C'est pareil, je sais pas trop d'où ça vient. Après, je suis assez attaché au monde paysan et je vois ce qui se passe, les petites fermes qui disparaissent au profit de grosses fermes avec des structures métalliques où les hirondelles peuvent plus nicher. Enfin voilà, il y a une disparition assez globale quoi de l'habitat de l'hirondelle. Et puis c'est pareil, c'est lié aussi aux insectes. Et ben voilà, oui, ben il y a 25 ans, quand on partait la nuit en voiture en été, ben les pare-brises étaient recouverts d'insectes. Et puis maintenant, ben c'est plus le cas, quoi. Ouais, c'est quand même un peu inquiétant. Et donc on a des oiseaux, ben qui viennent soit du nord, qui sont des petites haltes migratoires. Donc on a de la chance de pouvoir les observer. Puis des fois on a des Américains aussi qui sont pris par une tempête. Parce qu'ils sont au milieu de la mer, enfin de l'Atlantique, puis ils se font prendre par une tempête, et puis ils se font ramener jusqu'en Bourgogne, et puis ils s'arrêtent chez nous. Les moineaux, pareil. Alors c'est pas un migrateur pour le coup, mais les souvenirs de bandes de moineaux énormes, quoi. Bon bah voilà, il y en a de moins en moins aussi. Sur les oiseaux un peu communs, on pourrait dire, C'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, une baisse des effectifs. Je fais pas de comptage. Enfin voilà, je le vois, quoi, je le remarque.
Si tu cherches là, on dit que dans le chant des oiseaux, si tu as peur de, tu sais que dans le chant des oiseaux.
L'impact du réchauffement climatique, c'est qu'il y a des modifications en termes de milieu, d'habitat. Du coup, les oiseaux qui ont besoin de certains habitats vont devoir... Alors, l'avantage des oiseaux, c'est qu'ils se déplacent assez facilement, ils sont assez mobiles. Ils vont se déplacer pour retrouver les bonnes conditions pour pouvoir s'établir. Et du coup, le réchauffement climatique va modifier la répartition des populations d'oiseaux. C'est surtout ça qu'on va observer. Par exemple... On a des oiseaux qui étaient auparavant uniquement présents dans le sud de l'Europe, notamment en Espagne, et qui maintenant sont présents en France. Je pense à l'élanion blanc, je pense au héron garde-bœuf, qui étaient des espèces vraiment du sud-sud, qui n'étaient pas présentes en France, et maintenant qu'on trouve de plus en plus. Le guépier d'Europe aussi, c'est un oiseau qui était vraiment du sud, sur le poteau méditerranéen français, qui a tendance et qu'on trouve maintenant beaucoup plus au nord de la France. Et bon, le problème, c'est qu'au niveau mondial, toutes les populations d'oiseaux qui ont vraiment besoin de zones très très froides, notamment celles des zones septentrionales, donc du nord de l'Europe, elles peuvent pas monter plus. Donc elles vont avoir un problème. Pareil pour les espèces qui vivent chez nous en altitude, donc sur les reliefs, notamment dans les Pyrénées. C'est des espèces qui ont besoin de froid en hiver, notamment d'un couvert neigeux, et ou bien de zones très très ouvertes qu'on va trouver en altitude. Et c'est des espèces avec les réchauffements qui vont petit à petit monter de plus en plus haut. Sauf qu'à un moment, elles pourront plus monter. Hein. Quand il n'y a plus de neige, il n'y a plus de neige. Du coup, ça, c'est des espèces qui malheureusement sont destinées peut-être à s'éteindre sur ces espaces-là. Ouais. Après, le réchauffement climatique, là, il a plein d'autres impacts. Hein. Notamment sur la migration. On parlait tout à l'heure des cigognes blanches. C'était des oiseaux auparavant qui migraient systématiquement en Afrique. Et depuis quelques années, on se rend compte qu'elles se sédentarisent, c'est-à-dire qu'elles passent l'hiver chez nous. Parce que le voyage est tellement risqué pour elles que c'est beaucoup plus... pour leur survie, c'est beaucoup plus intéressant de passer l'hiver en France. Et on le trouve aussi chez d'autres espèces, notamment la huppe faciée, donc un oiseau qu'on trouve assez communément chez nous, qui de plus en plus passe l'hiver chez nous, notamment les individus qui sont sur le poteau méditerranéen. Ça peut poser des problèmes parce que c'est des oiseaux qui ne sont pas forcément habitués à nos hivers. Ils restent parce que les hivers sont de plus en plus doux. Mais si jamais un hiver, on a des conditions extrêmement rigoureuses, eh ben, ces oiseaux-là vont certainement mourir. C'est le cas des hérons garde-bœufs, dont on a parlé tout à l'heure, qui y a des grosses mortalités quand il fait très froid dans le Tarn. Parce que ce n'est pas des espèces qui sont normalement habituées à... Enfin, en tout cas, qui ont évolué pour... subir des froids extrêmes comme on peut les avoir parfois. Voilà. Après la migration, ces changements de migration, ils ont d'autres impacts. Par exemple, je prends le cas du gobe-mouche noir, ou gobe-mouche à collier plutôt, sur lequel il y a eu des études. Il y a un problème de ce qu'on appelle de désynchronisation, c'est-à-dire que ces oiseaux vont revenir d'Afrique à peu près toujours à la même date. Sauf que donc ils ont choisi cette date-là, c'est l'évolution qui a fait qu'ils reviennent à cette date-là parce que elle correspond à l'émergence des insectes dont ils se nourrissent principalement. Sauf que avec le réchauffement climatique, l'émergence peut avoir lieu une semaine, deux semaines, trois semaines plus tôt. Du coup, ils arrivent en décalage avec cette émergence qui est censée les aider à nourrir leurs petits. Oui, donc du coup, ils ont moins de réserves que s'ils étaient, que s'il n'y a pas eu de réchauffement climatique. De la même manière, il y a des espèces qui, comme il fait plus chaud, vont remonter en France un peu plus tôt que prévu. Et là, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'ils vont arriver un peu trop tôt avant que les insectes soient à leur pic d'émergence. Vous voyez ? Donc, des espèces d'adaptation qui sont encore un peu faibles et qui posent des problèmes. Au niveau de l'eau aussi, le réchauffement climatique, il peut provoquer l'augmentation du niveau de la mer, et ça, on le voit déjà notamment sur la côte atlantique, où on a désormais de plus en plus les zones de marais et les estuaires où s'arrêtent les limicoles et beaucoup d'espèces en cours de migration. Ça, c'est vraiment des zones de repos, d'alimentation. Et ces zones-là sont de plus en plus immergées par l'eau. Et du coup, voilà, c'est autant d'étapes d'alimentation que les oiseaux n'ont plus. Et qui pose également un problème. Alors, le réchauffement climatique, c'est un mécanisme qui est très complexe. On est loin d'en comprendre toutes les conséquences pour les oiseaux. Mais ça en est certainement une, ouais. Après, il y a des impacts plus directs, parce qu'il ne faut pas confondre le réchauffement climatique avec la météo. Et on observe de plus en plus des épisodes extrêmes de météo, notamment des canicules, des pluies, des tempêtes, etc. Et là, il y a vraiment un impact beaucoup plus direct. Je pense notamment aux hirondelles encore. Les hirondelles construisent leur nid avec des matériaux, essentiellement c'est de la boue mélangée avec de la salive. Et ce matériau-là, s'ils ne l'ont pas au moment de la construction du nid, donc on va dire en avril-mai, notamment à cause des chaleurs, hein, s'il y a une sécheresse, la boue n'est plus disponible, là, elles n'auront plus les bons matériaux pour construire les nids. Et on a observé que pendant les années de forte chaleur comme ça, de sécheresse, elles vont du coup utiliser des matériaux de substitution, notamment du sable de rivière. Sauf que ce sable-là est beaucoup plus friable, et du coup on a constaté beaucoup de casses de nids, hein, les nids qui s'écroulent d'eux-mêmes à cause de ce phénomène-là. De la même manière, les gros épisodes de grêle comme on a pu avoir cette année, de fortes pluies, lorsqu'ils ont lieu pendant la période de nidification, ça fait des ravages énormes parce que les nids sont pour la plupart très fragiles. Quand les petits viennent de naître, ils sont souvent sans plumes, et il suffit que les parents aient peur. Les parents qui couvent aient peur quittent le nid, et alors là avec le refroidissement le refroidissement, c'est sûr que la couvée est fichue, donc il y a vraiment beaucoup de mortalité malheureusement à cause de ça. Et pour en venir à la canicule et aux fortes chaleurs, je pense aux oiseaux qui nichent sous les toits. Alors je pense à la chevêche d'Athéna, je pense aux hirondelles encore et aux martinets qui cuisent littéralement sous les toits. Et donc on a également beaucoup de mortalité tous les ans à cause de la sécheresse sur ces espèces-là, qui alors elles cuisent pas sous les toits, mais les jeunes ont tendance à sauter dans le vide avant de savoir voler pour échapper à la chaleur. Voilà. On pourrait parler aussi des incendies, bien sûr, hein, dans les PO là ou même dans l'Aude, il y a eu des incendies énormes ces derniers temps. Le constat, il est relativement simple. Tout ce qui était dans ces espaces-là est mort et mettra sans doute beaucoup de temps à revenir. Alors, je parle des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est peut-être les plus chanceux parce qu'ils peuvent voler. Mais bon, les naturalistes, nous, on raisonne en termes de biodiversité. Donc, les oiseaux se nourrissent d'insectes ou de micro-mammifères ou de reptiles, etc. Donc, à partir du moment où tout est mort, les oiseaux, même s'ils ont des ailes, peuvent revenir. Ils mettront un petit peu de temps avant que les écosystèmes se rétablissent et qu'ils puissent à nouveau retrouver leur place. Après, il y a des choses où on ne sait pas trop mesurer si c'est grave ou pas, mais par exemple, les oiseaux qui nichent dans le nord de l'Europe, notamment les anatidés, donc les canards, viennent chez nous en hiver, donc ils hivernent chez nous, ils passent l'hiver chez nous, pour éviter les grands froids du nord. Comme avec le réchauffement climatique, les hivers sont de moins en moins rigoureux dans le nord, ils viennent de moins en moins chez nous, donc en hiver, on a de moins en moins de canards qui viennent sur nos zones humides. Voilà, c'est un constat, alors je sais pas trop comment l'interpréter. Bon, en tout cas, les populations d'oiseaux, il faut voir ça comme une grande respiration avec les migrations, les mouvements post-nuptiaux. Ils passent leur temps, enfin l'essentiel des oiseaux passe leur temps à bouger sur notre planète. Et c'est surtout ça que le réchauffement climatique modifie. Et parfois, ça entraîne vraiment un déclin fort des populations.
Globalement, je pense, pour moi, les mésanges dans nos milieux, ça pose, enfin, dans les milieux que j'étudie, c'est moins un problème. Par contre, pour des gens qui sont plutôt en ville, là, on voit, ils commencent à pouvoir identifier les moments critiques où il y a beaucoup de mortalité. Alors, c'est surtout au moment du nourrissage des poussins où il n'y a pas assez de nourriture. Donc là, si les gens, ils mettaient de la nourriture, quelque chose qui est carnivore, des insectes, des vers de farine ou des choses qui pourraient nourrir leurs petits, ça permettrait plus de survie de poussins au printemps. Les gens, ils ont tendance à mettre de la nourriture l'hiver. Donc c'est bien, les oiseaux, ils survivent mieux l'hiver, mais peut-être il faudrait nourrir un peu plus le printemps. Donc ça, c'est une action. Alors, on ne sait pas l'effet, on n'a jamais testé, mais ça pourrait être quelque chose à considérer. Et peut-être tester scientifiquement pour voir est-ce que ça, c'est une action qu'on pourrait prendre. Pareil pour cette idée de créer des nichoirs qui sont plus isolants. Ça pourrait être vraiment intéressant, surtout en ville, où on a tendance à avoir des températures de plusieurs degrés plus chaud par rapport à l'environnement plus rural juste à l'extérieur des villes. C'est ce qu'on appelle le heat island effect, c'est l'îlot de chaleur autour de chaque ville. Et donc ça pourrait être vraiment une action concrète à prendre pour des oiseaux qu'on appelle cavernicoles, qui nichent dans des nichoirs ou dans des cavernes.
J'avais envie de transmettre comment apprendre en fait aux autres à découvrir la nature, à découvrir comment avoir conscience finalement qu'on en fait partie et comment vivre avec. Donc ça, c'était super. J'ai passé un très bon moment de ma vie. J'ai fait ça pendant 15 ans, quoi. Et puis en fait, il y a un moment, j'ai senti que je commençais d'être dépassé par les humains. En fait, les autres n'ont pas cette conscience-là. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'avais plus la patience d'être avec eux. Enfin, pour moi, c'est aller combattre en fait presque ça, quoi. Maintenant, c'est devenu un combat, quoi. Enfin, ça m'arrive de discuter avec des gens, mais dès que je sens que la personne en face, elle va rentrer en conflit parce que ouais, bon bah les oiseaux, c'est bon, quoi. Il y en a bien assez, de toute façon, ils chient sur les bagnoles, ils ont abîmé ma voiture, moi, ça me fatigue, c'est compliqué, quoi. J'ai passé 15 ans à transmettre des choses, quoi. Je suis content de l'avoir fait. J'aimerais bien avoir la force de le refaire, j'avoue. Moi, c'est quelque chose que je fais avec mes voisins. J'ai un voisin qui traitait dans son jardin à fond, tout ça. Ça, il a arrêté de traiter, quoi. Yes, j'ai gagné, quoi. Bon, il met encore du répulsif à serpents, mais il met du répulsif à serpents, il ne met pas du poison pour les serpents. Ça, c'est déjà pas mal aussi. Enfin, pour moi, ouais, c'est un travail quotidien, en fait. Avec mes voisins, voilà, moi, je suis toujours fourré dans mon jardin. Et ils passent, ils promènent leurs chiens. Puis voilà, ben, on cause deux minutes, et puis on voit une bestiole, et puis c'est tout de suite un cri. Moi, je vais voir la bestiole. Ah, oh, bah tiens, c'est une punaise. Voilà, regarde, c'est quand même joli, une punaise arlequin, c'est noir et rouge, c'est quand même super sympa. Et en fait, bah, ça va vachement mieux, quoi. Ça, je suis super fier. Les scutigères, vous voyez, mille pattes gris, là, qui vont super vite, là. C'est un grand mille pattes, qui est gris-marron, qui a des grandes pattes, puis qui va très très vite. C'est plutôt positif, ça mange les autres bestioles dans les maisons, quoi. Et ma voisine, là, elle supportait pas ça. Donc elle envoyait un sur son mur, c'était un coup de claquette direct. Et là, elle a entendu que c'était utile pour la maison, et du coup, elle ne les tue plus, même dans sa chambre. Puis les oiseaux, voilà, j'installe des nichoirs, puis ça marche. Et mes voisins, ils voient les petites mésanges bleues tous les ans qui reviennent dans le nichoir et tout, et ça fonctionne, quoi. Quand on a un peu de connaissances, je pense que c'est une des clés, quoi, de les transmettre. Et puis, de connaissances sur les comportements des animaux aussi. Et je pense que ça aide à vivre avec et à conscientiser notre appartenance à la planète, quoi. Moi, je pense que le partage entre humains, ça aide aussi énormément à évoluer. Alors, par rapport au jardin, si on a la chance d'avoir un arbre, bah, c'est d'installer un nichoir. Donc, on installe un nichoir à peu près au mois de février, puis on l'enlève au mois de septembre pour le nettoyer. Et puis, pour éviter qu'il y ait d'autres espèces, notamment des quatre pattes qui montent dedans passer l'hiver. Donc ça marche bien. La mangeoire en hiver fonctionne bien. Alors par contre, j'insiste sur en hiver, quand il gèle, quand la nourriture devient difficile à trouver pour les oiseaux. Parce que sinon, les oiseaux s'habituent et c'est pas bon pour eux. Et puis, on arrête bien entendu la mangeoire au premier beau jour, quoi. Alors c'est toujours un peu difficile, hein, parce que quand il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent, ça fait une super vie à regarder, mais il faut penser aux oiseaux, quoi. C'est pas pour nous, quoi. La mangeoire, quoi. C'est pour eux, quoi. Et puis simplement se taper dans un buisson en restant discret, debout, assis, mais pas bouger, faire des petits. En fait, simplement ça peut suffire à attirer des petits oiseaux et qui vont venir volter à des fois moins d'un mètre autour de nous, quoi. Sans avoir peur de nous, quoi. Alors, les oiseaux craignent beaucoup le visage et puis les mains. Donc, c'est une petite écharpe, petit bonnet, c'est pas mal, fonctionne bien. Et puis les mains, genre dans les poches ou si on a des jumelles, sur les jumelles, et puis on essaie de pas montrer vraiment les mains, quoi. Enfin, pas faire la silhouette classique, là, de la tête ronde avec les yeux, la bouche, quoi, et puis les mains à côté, comme ça, quoi. Et puis jamais montrer un oiseau du doigt. C'est très, très, très impoli. Ils prennent surtout ça pour un fusil et Ouais, voilà, ouais.
Alors, pour la petite histoire, c'était fin août. Au-dessus, il y a eu une énorme tempête sur le Tarn, et notamment au niveau de Gaillac. Et les cigognes remontent assez tôt. Partent assez tôt, pardon. Donc, elles migrent. Elle migre plutôt vers le mois d'août, donc il y a des passages dès le mois d'août. Et donc après cette tempête-là, on a eu des appels de personnes qui avaient retrouvé des cigognes blessées. On en a récupéré trois. Vous voyez, une tempête peut blesser trois cigognes. Alors une patte cassée, une aile cassée et une était carrément morte. Et ça, c'est que trois individus qui ont été retrouvés, mais je suis certain qu'il y en a eu beaucoup plus qui ont été touchés, qui n'ont pas été retrouvés. Et en fait, les oiseaux du fait de la tempête, se sont posés comme elles ont pu. Alors, il y en a une qui s'est fait électrifier, c'est la troisième, c'est ça. Et d'autres qui se sont, voilà, voilà, ça a été un peu dramatique pour elles. Nous, on a un centre de soins, mais il n'était pas ouvert à ce moment-là, on pouvait pas les prendre, et du coup, elles ont été envoyées à l'école vétérinaire de Toulouse. C'était une patte cassée, donc il lui a fait ce qu'il fallait. Il a même mis une broche dans la patte. Les cigognes ont des grandes pattes, donc. Il a réussi à la soigner comme ça, enfin en tout cas faire les premiers soins. Ouais. Elles ont suivi un sacré parcours et je pense qu'elles ont été sauvées. Mais dans près de Castres, dans le Cidobre, on a un centre de sauvegarde, un centre de soins. Donc les arbasques qu'on nous amène du Tarn. Beaucoup de collisions voitures, des électrocutions aussi. Voilà, des empoisonnements. Enfin, il y a un peu malheureusement tout type de cas. Et voilà, je crois que l'année dernière, on en a soigné un petit peu moins de 300. Les oiseaux.
Toi personnellement, comme émotion de constater tout ça tous les jours?
J'ai toujours un sentiment un peu d'impuissance. En plus, le déclin des populations d'oiseaux, il est multifactoriel. Malheureusement, le réchauffement climatique, ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles il y a de moins en moins d'oiseaux. On parlait tout à l'heure des pesticides, c'en est une autre. La dégradation de leurs habitats, c'en est une autre. On ne peut pas nier non plus l'impact de la chasse sur certaines espèces. Parfois, je me demande... moi, mon métier, il a du sens, mais voilà, on passe notre temps à travailler sur ces sujets-là et on voit que ça prend énormément de temps avant que les choses bougent, si elles bougent. Et malheureusement, souvent, elles ne bougent pas dans le bon sens. Donc voilà, c'est pas hyper motivant. Ouais. Enfin, hyper réjouissant plutôt. Nous, on reste motivés, mais c'est pas très réjouissant au quotidien.
Et est-ce qu'on pourrait faire des choses à petite échelle, enfin, je veux dire, chacun dans son jardin, ou des choses à plusieurs? Est-ce qu'il y aurait des solutions?
Oui, alors en termes de réchauffement climatique, on a tous notre responsabilité en termes de consommation. Voilà, après, il y a les déchets, il y a le voyage, bien sûr, la consommation d'électricité, les transports. Et après, à titre plus local, pour les oiseaux, à la restauration de leurs habitats, planter des haies, arrêter de tondre la pelouse, mettre des nichoirs s'il faut, si l'hiver est très rigoureux, donner quelques graines aux oiseaux de votre jardin, restaurer la trame bocagère, restaurer les trames vertes et bleues dans les communes, les agglos. Arrêtez bien sûr de traiter, foutez la paix à votre jardin, laissez-le s'exprimer, et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et puis peut-être arrêter de manger de la viande aussi, je pense. Bon, ou bien, je pense à nos amis agriculteurs et éleveurs. On peut arrêter de manger de la viande, ou sinon être raisonnable, voilà. Et le plus possible aider à l'agriculture biologique.
Fais comme l'oiseau, sa vie la pure et d'eau fraîche, un oiseau, et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut, plus haut. Fais d'aller plus haut, plus haut.
fleurs nous détestent, les animaux prient pour qu'on meure. Dès que j'ai su, j'ai assassiné mon chien. Maintenant, je savais ce qu'il fomentait. La pâquerette, l'iris, la rose. Pourquoi il n'y avait plus de paix parmi les hommes. Pourquoi rien ne fonctionnait. Il n'y a pas de retour possible. Jette le bouquet de ton ami. Tue les animaux, tue-les tous. Mais ne mange pas leur viande. Maintenant, je sais ce qu'ils pensent. Leurs organes sexuels dans l'air, leur fourrure puante et leur jeu sur la corde sensible. Ce qu'ils nous feraient s'ils gagnaient. Ce sera formidable sans eux. On poursuivra juste nos vies brèves, qui sont plus longues que les leurs et jusqu'à maintenant plus tristes. Les fleurs nous détestent, les animaux prient pour qu'on meure. Dès que j'ai su, j'ai assassiné mon chien. Ils nous détestent, ils prient pour qu'on meure. Réveille-toi, Amérique, assassine ton chien.
En fait, l'être humain est en train d'entrer dans une zone dans laquelle, d'abord, il n'a jamais évolué et qu'on ne connaît pas. Par exemple, l'être humain n'a jamais vécu avec les taux de CO2 qu'on a dans l'atmosphère actuellement. On est en train de recréer l'atmosphère qu'il y avait durant les dinosaures. Vous voyez, à l'époque des dinosaures, il y avait tout le charbon, c'était en fait des forêts. Et les dinosaures vivaient avec des taux de carbone bien plus élevés. Donc nous, l'être humain n'a jamais vécu avec les taux qu'on a actuellement. On a de la chance que le CO2 ne soit pas toxique. On risque d'atteindre des points de bascule et on ne sait pas sur quoi ça va aboutir. Enfin, on ne sait pas. On n'a jamais vécu ça, en fait. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Alors le problème, et ça les politiciens sont les premiers à sauter les deux pieds joints dedans, c'est qu'il y a plein d'incertitudes sur ces modèles. Alors les politiciens utilisent cette incertitude pour ne rien faire en fait. Ils disent c'est semer le doute, hein, c'est créer le doute en disant on n'est pas sûr, on ne va pas prendre des décisions sur quelque chose qu'on n'est pas sûr. Déjà je pense qu'il y a actuellement une attaque contre tout ce qui est la science et les connaissances. On le voit aux États-Unis, c'est absolument hallucinant ce qui se passe là-bas. Donc déjà protéger la science, protéger les connaissances, protéger la littérature, l'art... Voilà, que l'Europe reste un modèle en attendant, peut-être qu'aux États-Unis, ils reviennent à une situation plus saine, on va dire. Parce qu'actuellement, c'est complètement abject, en fait, ce qui se passe, complètement destructeur. Trump a réduit les financements de tout ce qui est science. Par exemple, il y a un observatoire sur une montagne à Hawaï, qui mesure les taux de CO2 dans l'atmosphère. Alors pourquoi Hawaï ? Parce que c'est loin de toute industrie, toute perturbation. Et depuis des décennies, cet observatoire est un peu la mesure phare du taux de CO2 dans l'atmosphère, et Trump est en train de la fermer. L'idée, c'est que les gens n'aient aucune information scientifique, les laisser dans l'ignorance, c'est un peu la stratégie du fascisme, de laisser les gens dans l'ignorance la plus totale pour les manipuler, en fait. Et au niveau scientifique, c'est scandaleux. Je dirais, une des solutions, c'est déjà que les gouvernements, que les Américains se reprennent et changent de système. Mais je pense que ce déni collectif, il vient du fait qu'on est face à une situation complètement nouvelle, inédite, et qui est très intellectuelle. C'est-à-dire que quand on réfléchit à ces risques de basculement des systèmes terrestres, c'est quand même basé sur énormément de données collectées, de modèles. Ce sont des données qui sont analysées. C'est ça que critique justement, que démolit Trump. C'est tout ce système hyper sophistiqué qui a été mis en place, qui étudie les courants marins, qui étudie les températures, qui étudie la perte de biodiversité, etc. pour arriver à ces conclusions, mais qui sont pas noir sur blanc. C'est toujours avec des probabilités qui dépendent de ces modèles. Donc c'est quand même hyper sophistiqué par rapport à nos mécanismes d'autodéfense ou d'entretien personnel. Et c'est ça la complexité en fait. Parce qu'un politicien vous donne un message noir sur blanc ultra simpliste et le scientifique il viendra vous dire oui on a fait ces modèles-là, si je varie tel paramètre on a telle prédiction, si je varie tel autre paramètre il dira c'est une autre prédiction. Et le politique va dire, mais en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous voyez, ils utilisent ça comme une faiblesse, en fait. Et même en France, quand on voit des politiciens qui essayent, à un moment donné, ils butent contre des intérêts économiques à court terme et ils doivent rebrousser chemin. Et c'est triste parce que souvent, les décisions en écologie, biodiversité, tout ça, c'est les premières qui sont les premières à être éliminées, en fait. Et deuxièmement, c'est au niveau individuel, c'est plus compliqué parce que l'être humain a été sélectionné pour favoriser son bien-être immédiat. Et donc même moi, en fait, on doit tous faire face à nos contradictions. Et les gens qui vivent, qui sont complètement 100% en accord avec leurs idées, c'est des gens qui sont pas faciles à vivre en société parce qu'ils sont confrontés en fait à d'autres personnes qui ne sont pas d'accord de faire ces sacrifices. Donc, ce n'est pas évident. Alors, en fait, dans ces mécanismes, justement, qui évolutifs, intéressants, c'est que, par exemple, il y a chercher le bien-être immédiat, mais il y a aussi le fait que les gens sont constamment insatisfaits. À l'âge de la pierre ou l'homme préhistorique, quand il vivait au jour le jour de la chasse, de la cueillette, etc., c'est un mécanisme qu'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de stock, pas de réserve. Un jour, ils mangeaient, ils étaient déjà en pensée, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Il faut de retourner chasser. La viande s'avarie, ils n'avaient pas de frigo, tout ça. Donc, ils vivaient au jour le jour et toujours chercher plus. Parce qu'on se dit, mais ces milliardaires qui vivent, comment ça se fait qu'ils ne se disent pas, oh, là, on arrête, et puis c'est bon, j'ai 100 milliards de dollars, c'est bon, je peux m'arrêter, maintenant je contribue. Donc ces mécanismes-là sont très profonds, il y a cette insatisfaction. Vous voyez, même, vous dites, mais comment ça se fait qu'un milliardaire est insatisfait? Mais ils sont insatisfaits, ils ne sont pas heureux, parce qu'ils ont accumulé, mais ça ne suffit pas, c'est toujours plus. Alors, les gens, ils disent que c'est le capitalisme, moi je ne suis pas sûr, je pense que c'est un mécanisme vraiment profond de l'être humain, de toujours rechercher plus. Et que vous instaurez un autre système économique, je pense que ce mécanisme-là sera présent.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu Alerte Météo Terre avec le deuxième chapitre d'une série consacrée aux oiseaux, Silentio. Et pour muscler votre cochlée à tout moment, retrouvez les archives des émissions sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.